soir, dans une tribune publiée vendredi 11 avril 2025, Olivier Kamitatou, cadre du parti politique Ensemble pour la République, plaide pour la création d'une République fédérale du Congo. Selon lui, le fédéralisme représente une voie réaliste et nécessaire pour construire un Congo uni, prospère et pacifique, où chaque région jouerait un rôle actif dans le destin commun. L'ancien président de l'Assemblée nationale constate que la centralisation excessive de la gouvernance freine le développement du pays malgré ses immenses richesses naturelles et culturelles. Il souligne que cette proposition de fédéralisme ne serait pas une rupture avec l'unité nationale, mais plutôt un moyen de consolider cette unité à travers la valorisation des entités régionales dans un cadre commun. Que pensez-vous de cette proposition? Nous en parlons dans Dialogue entre Congolais de ce mercredi 16 avril 2025 avec Hervé Diakessier, qui est avocat et porte-parole du parti politique Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Alphonse Ngoï Kasangi, sénateur élu de Mbujimayi, ancien gouverneur du Kasaï oriental. Il est cadre de l'Union Sacrée. Monsieur Ngoï Kasangi, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à nos co-débatteurs.
Aussi avec nous dans ce débat, Paul Gaspard Ngondankoy, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Professeur Ngondankoy, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly et bonsoir à mes co-débatteurs.
À Mbujimayi, au Kasaï oriental, vous nous suivez sous la 93.8 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net, sur DSTV canal 867. Vous pouvez également suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiokapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, dans une tribune publiée vendredi 11 avril, Olivier Kamitatou, cadre du parti politique Ensemble pour la République, plaide pour la création de la République fédérale du Congo. Il soutient que le fédéralisme est une voie réaliste et nécessaire pour bâtir un Congo uni, prospère et en paix, où chaque région joue un rôle actif dans le destin commun. Fort de son expérience et... fort de son expérience de 20 ans de recul, Olivier Kamitatou dit constater que la centralisation excessive de la gouvernance freine le développement du pays malgré ses immenses richesses naturelles et culturelles. Michel Kifinangoy.
D'après Olivier Kamitatou, la décentralisation promise par la Constitution de 2006 est restée inopérante. Les provinces dépendent toujours de Kinshasa pour leurs ressources et décisions. Face à l'échec du modèle unitaire, le président honoraire de l'Assemblée nationale des transitions propose une fédéralisation articulée autour des 6 grandes régions historiques, Oriental, Équateur, Congo, Kasaï, Katanga et Kivu. Pour le porte-parole de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, ce système offrirait une autonomie constitutionnelle à chaque région avec ses propres institutions, ressources et compétences, notamment en matière d'éducation, santé, infrastructure et développement. Il permettrait, souligne Olivier Kamitatou, une gouvernance de proximité adaptée aux réalités locales, valorisant la diversité linguistique et culturelle du pays.
Merci Michel Kifinangoy. Comme je l'ai dit, Maître Hervé Diakessier, qui est porte-parole du parti politique Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition, va nous rejoindre dans un tout petit moment. Alphonse Ngoï Kasangi, vous êtes sénateur, élu de la ville de Mbujimayi, ancien gouverneur du Kasaï oriental. Vous êtes cadre de l'Union sacrée de la nation. Comment vous analysez ou que pensez-vous de cette proposition d'Olivier Kamitatou?
Moi, je crois que l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Olivier Kamitatou, oublie que toutes ces thèses ont été développées et appliquées dans le passé et elles ont donné des résultats négatifs. Donc, dans le sens que il y a les velléités des sécessions ou de la balkanisation du pays, et dans le contexte actuel où il y a quelques provinces qui sont désintégrées au grand ensemble, où nous avons la guerre, il y a deux qui affecte deux provinces. Eh ben, je crois que c'est pour désintégrer définitivement ces provinces-là et tant d'autres. Nous savons que pendant que nous parlons, il y a certaines provinces qui veulent, qui ont déjà des drapeaux, qui veulent la balkanisation, qui veulent leur État indépendant. Nous ne pouvons pas leur donner cette chance-là. Le problème qu'il y a ici est de rendre effectif la décentralisation. Il le dit lui-même qu'elle n'a jamais été appliquée. Il faut mettre en place les mécanismes pour l'effectivité de la retenue des 40% des recettes. Donc, ensuite, il faut l'effectivité de cette même décentralisation. Avant de parler du fédéralisme dans le contexte où nous sommes, rappelons-nous qu'il y a eu l'État autonome du Sud-Kasaï dans ce pays par ceux qui avaient ces velléités-là du fédéralisme, qui développaient la thèse du fédéralisme. Il y avait l'État autonome du Katanga, etc. Donc il y a Lumumba, Patrice Emery Lumumba, qui prônait l'unité nationale. Et on s'est battu, c'était battu, pour que le pays soit de nouveau réunifié. Et donc nous venons de loin, ce pays a toute une histoire. Il ne faut pas recréer des choses qui ont entraîné ce pays dans la balkanisation dans le temps. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'unité nationale, mais de rendre effective la décentralisation, les décaissements qui ne dépendent pas de l'élan du ministre des Finances, mais un mécanisme clair qui fait que les 40% des recettes à caractère national soient à la disposition des provinces. C'est ce qui va faire avancer le pays, qui va faire en sorte que les provinces aient des infrastructures, et le pays se développe à partir de la base.
Alors, les raisons qu'il avance par rapport au système qu'il propose, lorsqu'il dit par exemple le fédéralisme représente une voie réaliste et nécessaire pour construire un Congo uni, prospère et pacifique, où chaque région jouerait un rôle actif dans le destin commun. Il pense aussi que le fédéralisme pourrait offrir une gouvernance plus proche des citoyens, réduire les inégalités et mieux gérer la diversité culturelle du pays.
Bien, moi je crois que rendu aujourd'hui effectif le fédéralisme, il y aura d'autres provinces qui n'auront rien, qui ne vont pas se retrouver, où il n'y a pas d'infrastructure et ne sauront même pas par où commencer. Donc, je crois qu'il est un peu à côté de la plaque. Il n'a pas les réalités, certaines réalités des provinces. Parce que nous avons des provinces qui ne produisent pas 100 000 dollars par mois. Et ces provinces rendues des États fédéraux, comment vont-elles se développer? Avec quelles ressources? Et donc, nous devons construire une solidarité autour de laquelle chacun, par voie de la solidarité, chacun peut bénéficier de quelque chose, des recettes à caractère national réparties, bien sûr, en fonction de la capacité de mobilisation des recettes, mais aussi faire en sorte que celles qui n'ont pas de ressources, des recettes, puissent participer aussi à travers la répartition de ces 40% et investir dans les infrastructures. Donc, je ne crois pas qu'il a les réalités profondes du Congo. Peut-être on développe les thèses pour le plaisir de le faire, mais la réalité est tout autre.
Alors, je l'ai dit dans votre présentation, vous êtes cadre de l'Union sacrée. Est-ce que vous craignez, par exemple, que le fédéralisme ne conduise à un affaiblissement du pouvoir central?
Pas nécessairement l'affaiblissement du pouvoir central, parce qu'il faut qu'à un moment donné, le pouvoir central aussi accepte de s'affaiblir au profit des provinces. Parce que aujourd'hui, cette centralisation à outrance a montré ses limites. On peut beau dire que le bilan est positif et qu'on sort, mais les indices de développement nous démontrent qu'on est soit dernier ou avant-dernier ou parmi les quatre derniers pays au monde. Et donc, il faut quand même changer de paradigme, permettre à ce que le développement se fasse à la base. Et moi, je crois que la voie indiquée est celle de rendre effective la décentralisation, de mettre au profit des provinces les 40% prévus par la Constitution.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des inégalités ou des provinces qui sont pauvres, comment elles vont se développer. Alors, dans sa tribune, il suggère qu'un fonds d'égalisation interrégionale soit mis en place pour compenser les disparités économiques entre les régions avec un soutien accru pour les régions historiquement défavorisées.
Bien, mais tout ça est prévu par la constitution actuelle, parce que quand il nous ramène vers le fédéralisme, ceci entraîne les changements de la constitution. Mais lui-même, Olivier Kamitatou, il était contre les changements de la constitution dont on parlait il n'y a pas longtemps. Il était pour le maintien de la constitution actuelle. Parce que quand il prône le fédéralisme, ça veut dire il veut qu'on puisse changer la constitution. Et donc, dans la Constitution, il est prévu une caisse nationale de péréquation. Et c'est cette caisse qui peut régler les inégalités. C'est prévu dans l'article 181 de la Constitution. Donc, il faut rendre l'effectivité de la caisse nationale de péréquation, mettre à la disposition des provinces, comme je l'ai dit, les 40% qui seront répartis par rapport, bien sûr, à la capacité de mobilisation, mais aussi à la démographie, certains éléments pour permettre à ce que toutes les provinces en bénéficient et puissent poser les actions de développement. Donc, c'est prévu dans la Constitution actuelle, la question nationale des péréquations résout ces problèmes-là.
Mais selon lui, cette initiative n'exige aucunement le changement de la Constitution.
Comment elle n'exige pas que la Constitution parle de la décentralisation?
Il pense qu'il faut juste modifier la Constitution sans toucher les articles verrouillés.
Bien, je crois, quant à moi, que la Constitution actuelle consacre la décentralisation comme mode de gestion. S'il faut y aller au fédéralisme, ça obligera, ipso facto, le changement de la constitution. Où il y a jadis, il y a quelques mois ici, Olivier Kamitatou était contre même la modification de la constitution. Il était catégorique. Mais qu'aujourd'hui qu'il donne les idées qui entraînent les changements, la modification de la constitution ou les changements, je crois que c'est un contraste. Il s'est contredit lui-même.
Professeur Paul Gaspard Ngondankoy, vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Comment vous analysez cette proposition faite par Olivier Kamitatou?
Oui, bonsoir Madame Kelly. Bon, d'abord, c'est le moment choisi pour proposer ces idées. Nous sommes à un moment où on vient d'un débat houleux, passionné sur la révision, le changement de la Constitution. Aujourd'hui, si des telles propositions commencent à venir, ça veut dire qu'on nous invite à retourner à ce débat. Si aujourd'hui, on quitte la forme d'État actuelle, qui est le régionalisme constitutionnel, pour aller vers un État fédéral, c'est à tout le moins la rupture du pacte républicain qui a été convenu à Sans City. Je ne dis pas que ce serait nécessairement une violation de la Constitution, mais en réalité, ce serait une évolution, parce que si l'article 220, alinéa 2 de la Constitution aujourd'hui, interdit de réviser la Constitution pour diminuer les prérogatives des provinces, cela veut dire que le niveau atteint par l'autonomie des provinces actuellement ne peut plus être baissé. Il faut aller au-delà et pas retourner en arrière. Ça veut dire en réalité qu'en ce qui concerne la forme d'État, nous ne pouvons plus retourner à la forme unitaire de l'État qui n'accorde que peu de compétences aux provinces. Mais en revanche, on peut aller vers un fédéralisme si la révision constitutionnelle a pour objet d'augmenter les prérogatives des provinces et non de les diminuer. Dans ce cas-là, ça posera nécessairement le problème de la modification de la Constitution, jusqu'à quelle étendue, on le verra. C'est d'abord ça qui étonne, le contexte dans lequel le débat est lancé. Ce qui étonne davantage, c'est le fait que les préoccupations qui sont soulevées sont déjà prises en compte par la forme d'État actuel qui est dans la Constitution, les régionalismes constitutionnels. Cette forme actuelle que nous avons, elle est plus proche du fédéralisme que de l'unitarisme. En ce sens que les provinces bénéficient d'une autonomie, d'une triple autonomie, qui est beaucoup plus poussée que pendant la Deuxième République, parce qu'il y a une autonomie politique qui est consacrée, il y a l'autonomie administrative et l'autonomie économique et financière. Tout cela est prévu dans la Constitution, y compris même le mécanisme de ce qu'on appelle la Caisse nationale de prévention qui se chargera de corriger les inégalités de développement entre les provinces. Donc nos provinces actuelles, qui ne sont plus de simples circonscriptions administratives comme pendant la Deuxième République, et qui sont devenues des composantes politiques et administratives du territoire national, n'ont plus rien à envier aux anciennes provinces, ni aux États fédérés qu'on veut créer. Tout est prévu dans la Constitution, ce n'est pas parce que ce n'est pas appliqué que nous devons toujours, à chaque fois, avoir la manie de modifier les textes constitutionnels ou les textes légaux. Essayons d'abord de les appliquer et appliquons-les correctement et nous verrons les résultats. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, un seul élément du fédéralisme qui manque soit la panacée pour le développement. Et qu'est-ce qui manque pour que notre État devienne un État fédéral? Il n'y a que deux éléments qui manquent. C'est-à-dire que nos provinces actuelles doivent se transformer en États fédérés régis par une constitution régionales, provinciales, qui sont conformes évidemment à la Constitution nationale. C'est le seul élément qui manque. Le deuxième élément qui manque, c'est que, alors qu'on a déjà décentralisé le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, lui, n'est pas encore décentralisé. Il y a un seul pouvoir judiciaire qui est chapeauté au niveau national par les trois plus hautes juridictions que sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d'État, et jusqu'au bas avec leur juridiction inférieure. C'est le seul élément qui manque pour que le pays bascule vers... Ce sont les deux éléments-là qui manquent pour que le pays bascule vers un fédéralisme. Évidemment, avec une appellation ou fédérale ou quoi, etc., mais ça, ce sont des éléments formels. Mais tout ce qui existe dans la Constitution actuelle est plus proche d'un système fédéral que d'un système unitaire. Je suis un peu étonné que ce genre de proposition soit faite alors que tout est dans la Constitution pour l'instant.
Alors, il y a cet auditeur, Joseph Mwamba, qui nous suit. Hein, il dit ceci, une idée légèrement bonne, mais avec la mentalité des Congolais, ça conduira directement à des sécessions. Dans la plupart des cas, ce sont les États autonomes qui adhèrent au fédéralisme pour faire un pays unitaire et non le contraire. Professeur.
C'est justement la raison principale qui avait milité pour que, à Sand City, il n'y ait ni fédéralisme proclamé, ni retour à l'unitarisme. Parce que ce qu'on reproche aux fédéralistes, c'est leur velléité sécessionniste. Tout comme ce qu'on reproche aux unitaristes, c'est leur tendance à tout centraliser au niveau de Kinshasa. Et donc, pour couper la part en deux, le compromis politique qui a été trouvé, c'est que ni fédéralisme, ni unitarisme, on consacre un régionalisme constitutionnel. C'est-à-dire l'accord d'une autonomie beaucoup plus poussée aux provinces, avec en prime le principe de la participation à l'exercice du pouvoir au niveau national. Et c'est ce qui est dans la Constitution actuelle. Je ne vois pas ce que le fédéralisme viendra changer en termes de développement. Ce que nous, les Congolais, nous devons faire, c'est que nous devons d'abord nous réapproprier notre Constitution. J'ai l'impression que la Constitution n'a pas encore prise sur la société, sur les personnes. Et une fois qu'on a intériorisé la Constitution, il nous reste la volonté politique d'appliquer les principes qui sont dans la Constitution. Je donne un exemple aujourd'hui. La loi prévoit déjà le mécanisme de répartition des 40% des recettes à caractère national qui reviennent aux provinces. La loi dit que lorsque il y a ces recettes qui sont récoltées au niveau des provinces, les services d'assiette qui sont la DGRAD, la DGI et la DGDA sont obligés de prélever automatiquement et verser sur le compte de la province les 40% de la recette à caractère national qu'elle a récoltée. Je ne sais pas qui empêche les provinces de pouvoir retenir à la source ces 40%.
Mais les provinces accusent Kinshasa.
Ne laisse pas tout. Bien sûr, je sais qu'au niveau central, on l'accepte moins, mais c'est la loi qui est au-dessus de la loi, même pas les pouvoirs centraux. C'est vrai que le ministre des Finances doit ouvrir pour chaque province, je pense, des comptes pour que les régies financières puissent verser automatiquement les 40% sur leurs comptes. Mais ceci n'est plus la faute de la loi. C'est la faute des humains, c'est la faute des hommes. Et donc, je ne vois pas ce qu'il faut dans les textes changer radicalement pour que le développement devienne une panacée. Les textes ont tout prévu. La qualité des hommes, tout simplement.
Aziza Sani, qui est totalement d'accord avec le fédéralisme pour faire avancer les provinces, cet auditeur dit que dans certains coins du pays, la population vit comme dans à l'époque de la Pierre Taillé. Le fédéralisme pourra ainsi limiter les détournements et la dilapidation des deniers publics par le pouvoir central.
Le fédéralisme n'arrêtera pas les détournements des deniers publics si les hommes qui vont diriger ce pays sont toujours corruptibles. Ce qu'il faut dire, c'est que si on organise l'État de cette manière-là, c'est simplement la volonté de faire en sorte que les provinces deviennent des centres d'impulsion du développement. On leur reconnaît des compétences aujourd'hui dans la Constitution qui font que si ces provinces les utilisent comme il faut, elles peuvent véritablement devenir des centres d'impulsion du développement à la base. Elles ont des compétences concurrentes avec le pouvoir central, elles ont des compétences exclusives qui leur reviennent, elles ont les moyens de faire leur politique, à part les 40% des recettes à caractère national. Il y a les 10% de la Caisse nationale de péréquation, sans oublier que les lois ont prévu que les provinces ont des recettes propres, en termes d'impôts, en termes de taxes, en termes de... Voilà, elles ont même la possibilité de créer des établissements publics et des services publics pour créer des richesses. Donc, c'est simplement une question d'utiliser les prérogatives qui sont dans la Constitution. C'est simplement le fait d'avoir des animateurs de qualité dans les provinces qui impulsent réellement le développement. On n'a pas besoin pour ça de modifier la Constitution, de passer d'un État régional aujourd'hui qui, comme je l'ai dit, est proche du fédéralisme, un fédéralisme qui sera simplement formellement proclamé. Tout est là, tout est prévu.
La réalisation me signale que M. Diakiesse est en ligne. Hervé Diakiesse, bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir à tous les auditeurs et auditeurs de Radio Capi, ainsi que les contradicteurs.
On a du mal à vous suivre. Hein. Essayez de bouger pour améliorer la qualité de la ligne. Je rappelle que vous êtes porte-parole du parti Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Vous vous soutenez la proposition d'Olivier Kamitatou, qui est cadre de votre parti politique. Est-ce qu'on peut savoir, on peut connaître les motivations ou ce qui a conduit Olivier Kamitatou à proposer un modèle fédéral pour la RDC à ce moment précis de son histoire?
Très bien, merci beaucoup. Olivier Kamitatou l'a suffisamment motivé dans la tribune qu'il avait publiée à cet effet. Et d'ailleurs, la partie du débat que je viens de suivre, et je crois que ce sont les arguments peut-être du professeur Mondankoy, que j'aimerais rencontrer, a permis en tout cas de relever une chose. Depuis plus d'un demi-siècle, donc nous sommes quasiment 60 ans de l'existence de notre pays, nous avons tenté l'unitarisme dans toutes ses déclinaisons, jusqu'à atteindre ce que le professeur Rodako dit effectivement, le régionalisme constitutionnel. Ce qui en effet est l'une des rares constitutions qui ne soit pas fédéraliste, mais qui prévoit les prérogatives des provinces ou des entités territoriales décentralisées dans la constitution plutôt que dans une loi soit organique ou ordinaire. Ce qui démontre d'ailleurs l'essence du compromis qui justement avait été trouvé à l'époque où Olivier Kamitatou dirigeait l'Assemblée nationale de transition. Alors, il faut relever qu'en dépit de tout ce qui a été reconnu comme prérogative aux provinces, retenu à la source, compétences exclusives, compétences concurrentes, l'application de ses principes a été délibérément étouffé par l'unitarisme. Tout ce qui vient d'être dit là, c'est des pétitions des principes. Mais leur application a failli. La retenue à la source, qui est un principe constitutionnel, a été délibérément sabotée, remettant en cause la viabilité et des provinces et des entités territoriales décentralisées. Donc il est très clair que quelle que soit la déclinaison de l'unitarisme qu'on amène vers un régionalisme décentralisé, le principe demeure l'étouffement des capacités de fonctionnement de ces entités et donc les initiatives de développement dans les pays. Et contrairement à ce qui a été dit, je crois, par Constant Konakoy, ce n'est pas seulement un problème d'application des textes. Ça va au-delà aujourd'hui. Après plus de 60 ans, nous constatons que nous ne pouvons plus survivre et nous développer en tant qu'État avec un mécanisme qui permet au pouvoir central soit d'ignorer délibérément les textes qui régissent l'autonomie des provinces, soit d'avoir sa propre lecture restrictive et imposer de manière arbitraire l'unitarisme à un pays qui, de par ses dimensions, ne pourra plus répondre aux besoins de développement de son pays avec une centralisation à outrance comme à Kinshasa.
Mais en plus de l'application des textes, vous voulez parler aussi de la volonté politique?
C'est tout ça, on vous l'a dit d'abord que ça a été un compromis à San City et qui a été traduit par les compromis au niveau du Parlement de la transition, mais qu'il n'a pas été appliqué. Il n'a pas été appliqué parce que malheureusement, les gens ont de l'autonomie de province et du fédéralisme un regard caricatural, peut-être lié aux premières années de l'indépendance, que le fédéralisme ne peut apporter que la séparation et la sécession. Bien au contraire, le fédéralisme est un gage de l'unité nationale parce que, contrairement à ce qu'on croit, il est des institutions qui demeurent communes à toute la République. Nous avons la même monnaie, nous avons toujours la même armée, la diplomatie est entre les mains des autorités de l'État fédéral. Et par ailleurs, les entités assurent les développements avec leurs ressources. La solidarité nationale est garantie par une caisse de péréquation. Mais cette fois-ci, il y a des choses qui se prennent à la source sans dépendre de la bonne foi d'un ministre des Finances qui répond à l'agenda politique des affidés de Kinshasa ou qui crée son clientélisme en fonction des intérêts qu'ils ont dans chaque province. Par ailleurs, contrairement à ce qu'on laisse suggérer, le fédéralisme ne crée pas une sorte d'entité d'exclusion d'autres citoyens congolais non originaires de ces États.
Mais justement par rapport à ça, citoyen
congolais
monsieur peut vivre qui
dans c'est... l'État où il veut.
Alors, vous soulignez, Monsieur Kamitatou souligne que le fédéralisme va consolider l'unité nationale. Comment le fédéralisme, avec la reconnaissance, il faut qu'on se le dise, des identités régionales, renforcerait-il ce sentiment d'unité plutôt que de le fragiliser?
Très bien. D'abord, je le pose à contrario. Depuis les 60 ans d'unitarisme que nous avons, pourquoi nous heurtons aujourd'hui à ces problèmes des revendications nationales et identitaires? Si l'unitarisme était vraiment la panacée, la solution, pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons avec un pays quasiment divisé, avec des rébellions, avec des revendications identitaires? Parce que, entre autres, il y a un sentiment d'injustice et d'absence des réponses adéquates et de proximité par une centralisation des ressources communes uniquement au niveau de l'entité centrale qui crée le clientélisme et ne facilite pas la bonne gouvernance. Lorsque le fédéralisme est mis en place et permet à chaque entité, en fonction des ressources qu'elle génère, de résoudre au niveau local les problèmes qui se posent et de contribuer au niveau de la caisse de péréquation à la solidarité nationale. Pourquoi croyez-vous que des gens auront besoin depuis Pinga en Équateur ou Païkoungila ou bien Malemba pour jeter un pont, attendre qu'un ministre de Kinshasa vérifie si ce marché-là lui plaît et aussi il a des intérêts financiers dans cette affaire? Vous ne sentez pas que 60 ans après, nous tournons en rond, on nous sert les mêmes arguments en nous disant non, il suffit juste d'appliquer la loi, mais nous ne pouvons plus attendre la bonne foi des gens qui doivent ou pas appliquer la loi. Nous devons faire un saut quantitatif et considérer que depuis la constitution de 2006, nos compatriotes adeptes de l'unitarisme ont violé les pactes qui devraient permettre aux provinces de fonctionner. Ils n'ont jamais respecté la retenue constitutionnelle. Elle est constitutionnelle, de 40% à la source. Et c'est maintenant qu'on nous dit, non, mais c'est juste l'homme congolais, ça n'a rien à voir, c'est juste un problème d'application de la loi. Non, mais non, il faut laisser la chance à chaque État de pouvoir exploiter autant que possible, dans l'intérêt national, ses capacités locales, pour permettre à ces pays d'avancer.
Alors, comment vous répondez?
Le Congo est présenté comme un colosse au pied d'argile. Si ces pieds-là, ce sont les États, les provinces, si ces États et ces provinces cessent d'être de l'argile pour devenir du fer, de l'or, du cuivre, ce colosse aura alors vraiment des pieds solides. 2 345 409 km², c'est l'Europe occidentale. Et vous ne pouvez pas croire qu'à partir de Kinshasa, un groupe d'individus a vocation à s'accaparer la capacité de gérer tous les problèmes jusqu'au niveau le plus éloigné.
Alors très rapidement, très rapidement, comment vous répondez aux critiques qui pourraient voir dans ce fédéralisme un risque de balkanisation? Très rapidement.
Très bien. Premièrement, aujourd'hui nous sommes dans l'unitarisme. Jusqu'au départ du maréchal Mobutu, nous étions dans l'unitarisme. Ça n'a pas empêché les pays d'être occupés, coupés en plusieurs entités. Donc la question de la balkanisation n'est ni liée au fédéralisme ni à l'unitarisme, c'est lié à la mégestion du pays. Ça c'est autre chose. Et secondo, contrairement à ce qu'on croit, et on l'a jamais essayé, le fédéralisme vise l'ouïe à empêcher justement ces questions-là, parce que lorsqu'on crée le fédéralisme, les frontières du pays ne changent pas. Les frontières extérieures du pays demeurent les mêmes.
Et enfin,
on renforce les compétences de provinces qui deviennent des États fédérés et qui ont des prérogatives propres sur lesquelles le pouvoir central n'a aucun regard. Mais qui, en plus, se retrouvent dans un ensemble qui permet d'équilibrer et d'arbitrer des conflits éventuels qui peuvent surgir en termes de compétences. Et ces États contribuent à la solidarité nationale par une caisse de péréquation.
Merci, monsieur Diakhissé.
Qui récupère même les 40%, qui ne respecte même pas la rétrocession.
Alors, vous l'avez déjà dit, maître Diakhissé, on va vous redonner la parole tout à l'heure. On va prendre d'abord ces nombreux auditeurs qui nous appellent pour donner aussi leurs avis sur le thème de ce soir. On va se rendre à Bukavu Sud Kivu pour écouter cet auditeur.
Je suis Jules Maguenet et depuis la ville de Bukavu. Je salue personnellement la préconisation d'Olivier Kamitatu de mettre en place une république fédérale du Congo, un paradigme qui, selon moi, incarne une approche pragmatique et impérieuse pour ériger une nation cohésive, florissante et pacifique. Ce mécanisme de fédéralisme octroyerait, selon moi, à chaque région in autonomie permettant de contribuer de manière substantielle au destin collectif, convertissant ainsi les disparités contemporaines en levier de progression. Cette proposition incarne une opportunité exceptionnelle pour réformer le principe de gouvernance et édifier un avenir où chaque région pourrait pleinement contribuer à l'apogée nationale.
Monsieur Ngoï Kassanji, réaction.
J'ai suivi largement Monsieur Diakessi, l'intervenant de tout à l'heure. Je voudrais dire que ce n'est pas le fédéralisme qui corrigera les disparités. Hein? Les disparités existeront toujours. Parce que au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des provinces qui ne produisent pratiquement rien. Et ces provinces-là continueront à être totalement pauvres. Le problème est d'application des textes. Même M. Hervé Diakès, il n'a pas contredit cela. L'application des textes est de l'homme congolais. Aujourd'hui, même si on mettrait le fédéralisme, il sera source de problèmes si l'homme congolais ne change pas de mentalité, si on ne sait pas respecter nos propres textes. Donc voilà pourquoi, moi j'ai dit, nous avons des textes qui ne sont pas encore appliqués. Alors, le professeur l'a dit, les textes qui ne sont pas encore appliqués, qui sont des bons textes, qui se rapprochent au fédéralisme. Alors, si ces textes sont appliqués, eh ben, l'objectif poursuivi du développement à la base va se réaliser. Commençons d'abord par appliquer les textes et mettre en place les mécanismes, parce que celui qui a développé tout à l'heure la thèse du fédéralisme ne dit pas que dans une province comme le Sankuru, qui ne produit pas, qui n'a pas les recettes de 200 000 dollars, comment va-t-elle, même si elle devient un État fédéral, comment va-t-elle se développer, s'épanouir? Il ne dit pas ça. Par contre, moi j'ai proposé qu'il y ait un mécanisme, les décaissements de 40% des recettes ou la retenue, mais un mécanisme qui fait que ces recettes-là soient redistribuées aux provinces pour que le pays se développe à une même vitesse. Et donc, ce n'est pas, moi j'ai réagi à mon ami de Bukavu, Jules, pour lui dire que ce n'est pas le fédéralisme qui va corriger les disparités, mais c'est par contre l'application des textes et de l'homme congolais.
On va prendre ce deuxième auditeur qui nous appelle. Il est à Kinshasa. Ça sera pour vous, professeur Ngonankoy.
Niker Tokolo depuis la ville province de Kinshasa. La déclaration de M. Olivier Kamitat est, à mon avis, une bonne option pour le développement intégral du pays. Il n'est pas question ici de réduire le mérite du fédéralisme observé dans plusieurs États en une division ou sécession en RDC. La superficie et la démographie de la RDC obligent à celle-ci la nécessité de basculer à un État fédéral afin d'offrir la véritable autonomie de gestion aux collectivités locales, notamment les États fédérés, pour un développement concret, l'OTAN recherché. Cependant, les contextes sociopolitiques actuels de la RDC obligent la surséance de cette initiative. Enfin, nous demandons à ce que cette initiative soit classée parmi les thématiques de discussion sur la paix en RDC, d'autant plus qu'elle est l'une des solutions clés à donner à l'espace qui heurte depuis plusieurs décennies la paix et la sécurité dans notre pays.
Professeur Ngonankoy.
Je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce qui manque à la forme régionale actuelle que nous avons dans la Constitution pour qu'on passe à un État fédéral, il n'y a que deux éléments. C'est-à-dire que les provinces actuelles qui sont déjà autonomes constitutionnellement puissent se doter de leur propre Constitution qui reste respectueuse de la Constitution nationale et que le pouvoir judiciaire qui jusqu'à présent reste encore organisé au niveau national, soit également décentralisé de telle manière que les provinces disposent également de leurs propres cours et tribunaux. À part ces deux éléments-là, tous les traits caractéristiques d'un État fédéral se retrouvent dans la Constitution actuelle. Peut-être il faut les rappeler. J'ai entendu tout à l'heure que Maître Diakessi puisse me prouver qu'il ne s'agit pas que d'un simple problème d'application des textes. J'ai cherché ça en vain. Puisque quels sont ces traits caractéristiques? Le premier trait caractéristique d'un État régional ou d'un État fédéral, c'est l'autonomie politique qui soit accordée aux provinces ou aux États fédérés. Et c'est cette autonomie politique-là est accordée à nos provinces actuelles, non seulement parce qu'elles disposent de leurs institutions politiques propres, dont les animateurs sont élus directement ou indirectement par la population elle-même, à savoir les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux, mais elles disposent également, de par la Constitution elle-même, d'un paquet de compétences qu'elles partagent, d'une part avec les provinces, le pouvoir central, mais qu'elles exercent elles-mêmes de manière autonome. Il n'y a pas meilleure autonomie politique que celle-là qui est consacrée dans la Constitution. Je dis aussi qu'elles ont une autonomie administrative, parce qu'elles ne sont plus de simples circonscriptions administratives, elles sont des entités, des composantes politiques et administratives de l'État qui disposent du pouvoir d'avoir une fonction publique provinciale et locale et des services publics provinciaux. Elles disposent de l'autonomie économique et financière en ce sens qu'elles ont leurs propres ressources économiques qu'elles gèrent de manière autonome. Leurs finances ainsi que leurs dettes publiques sont distinctes des finances et des dettes du pouvoir central. Et ce qui leur manque, c'est simplement la retenue effective à la source des 40% des recettes à caractère national qui sont prévues. Il en ajoute à cela les 10% de la Caisse nationale de péréquation pour corriger les inégalités de développement. On ne peut pas mieux attendre sur le plan de l'autonomie financière. Et donc, tous ces éléments réunis, tous ces traits caractéristiques réunis, on est plus proche d'un État fédéral que d'un État unitaire. Il ne faut même plus parler d'un État unitaire aujourd'hui. Peut-être qu'il y a encore une mentalité centralisatrice dans le chef de certains politiques congolais. Ça, nous sommes d'accord sur le plan du diagnostic. Mais sur le plan des textes, tout est prévu. Il ne reste plus qu'aux Congolais de pouvoir d'abord intérioriser ses propres textes, ensuite d'avoir la volonté politique de les appliquer. Voilà, moi j'attends toujours que Maître Diakite me démontre qu'au-delà de cela, il y a encore une autre raison qui puisse justifier la proclamation formelle d'un État fédéral pour que le développement puisse arriver comme par un coup de baguette magique.
Il va vous répondre, professeur. Avant cela, on va prendre ces derniers auditeurs qui nous appellent depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo.
C'est Norbert Losingue depuis Kisangani. Aujourd'hui, la sortie de la crise sécuritaire qui déchire le pays passe par le fédéralisme selon Olivier Kamitat, fustigeant le centralisme. N'est-ce pas à l'investiture de notre pays à l'indépendance? Le roi belge, dans son discours, nous a mis en garde contre les réformes hâtives susceptibles de compromettre l'avenir de notre pays. Quelle est l'opportunité de cette réforme pendant que le pays semble se diriger droit vers la balkanisation qui, selon le pouvoir en place, dénonce l'agression du Rwanda pour l'exploitation de nos minerais? Est-ce que l'histoire de 1960 se répète en 2025 avec cette réforme? Comme tout le monde veut être président de la République, pourquoi ne pas aménager notre formule de 1 plus 4 dans notre constitution pour avoir la paix dans ces pays?
Réaction à Maître Diakite.
Bon, je crois que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu le temps de grandir et même de vieillir. Et donc, tirer les conséquences que si on devrait attendre 60 ans pour faire de réformes, c'est qu'on ne s'est pas beaucoup hâté. Je reviendrai au professeur Ngondakoy, hein, ça c'est tout à l'heure. Donc, premièrement, pour dire à notre ami auditeur que justement, c'est après avoir évolué et avoir vu la manière dont les textes sont appliqués ou non appliqués, que nous avons abouti au constat qu'effectivement, au regard des dimensions de notre pays, des défis actuels et des attentes de nos populations à la base, la forme unitaire, même régionalisée sur le plan constitutionnel, ne répond plus à ces attentes et qu'il faut carrément entrer dans le fédéralisme de manière non ambiguë, non équivoque, avec courage. Ce n'est pas une atteinte à l'unité nationale. Nous ne sommes pas unis dans la peur. Nous ne sommes pas unis parce que nous avons peur d'être séparés. Nous sommes unis dans la richesse de nos diversités et nous pouvons libérer les énergies. Comme dit notre hymne national, nous sommes unis par l'essor, Nous sommes unis dans l'effort pour l'indépendance, mais maintenant, c'est le moment de prendre le plus bel élan. Et on ne va plus rester juste unis parce qu'on a peur d'être balkanisé. Le Congo ne sera jamais balkanisé et le fédéralisme ne porte pas atteinte à l'intégrité territoriale. Il décide juste de donner plus de prérogatives aux provinces et qui deviennent des États. Primo, que fait le fédéralisme par rapport à l'actuel système? Le fédéralisme nous apportera, par exemple, le droit pour les provinces d'avoir 60% de leurs recettes ou 70% de leurs recettes à la source, de contribuer à 10% au niveau de la caisse de péréquation et de renvoyer 20% au fonctionnement du pouvoir central. Ou 60% pour les provinces, 30% pour le pouvoir central et 10% pour la caisse de péréquation. Ça, c'est des choses qui se discutent. À la différence du régime actuel.
Alors, est-ce que vous pouvez être concis, Maître Hervé Diakhessé, parce que...
Oui, mais ceux qui m'ont précédé ont eu les temps aussi
vous
de...
Vous avez eu presque le même temps d'antenne, ne vous inquiétez pas.
Alors, nous allons droit au but, Madame, vous rassurer là-dessus. À la différence de l'actuel système, qui a été mis en place depuis la Constitution de 2006, nous avons constaté un refus manifeste d'appliquer le principe du régionalisme constitutionnel. Pourquoi? Parce que c'est inhérent au centralisme. L'ensemble des institutions et des politiques qui les animent sont du pouvoir central et ont une capacité d'inhiber ou de bloquer tout fonctionnement de l'État. Ce qui est impossible si nous sommes dans un régime fédéral où chaque État fédéré a ses prérogatives propres sur lesquelles l'État central n'a aucune capacité d'intervention en ce qui concerne des compétences exclusives. Ça, nous ne le pouvons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, un ministre du gouvernement central refuse d'appliquer la retenue à la source. Il peut aussi refuser même d'appliquer la rétrocession qui est inconstitutionnelle. Et ça étouffe le fonctionnement des provinces. L'honorable Mboyika Sanchi ajoute, j'avais d'autres arguments pour le prof Modakoy, mais vous me bousculez. Donc
mais vous allez quand même répondre très brièvement à sa question.
L'honorable Mboyika Sanchi a dit quelque chose, par exemple, en disant c'est pas le fédéralisme qui aidera les sans-cours. Mais on est à plus de 60 ans d'unitarisme. Pourquoi, si l'unitarisme devrait aider les sans-cours, ça n'est pas sorti? Donc c'est qu'on a un problème. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'application des textes, mais des dynamismes qui peuvent être libérés lorsqu'on est dans une logique qui permet notamment que la caisse de péréquation puisse subvenir aux besoins des provinces qui seront un peu plus en difficulté. Il y a des mécanismes de collaboration interétatique, fédéré, et que par ailleurs, dans une logique où ces entités auront des prérogatives propres, ils peuvent lancer des initiatives de développement qui n'ont pas besoin de l'aval ou de l'appui du pouvoir central. Et aujourd'hui, l'ensemble d'atteintes ou du refus de respecter les textes, c'est inhérent au fait que l'État central a une capacité de pouvoir intervenir dans le fonctionnement des États. Les provinces fortement peut-être régionalisées, du fait que c'est toujours des extensions dotées peut-être de l'autonomie, mais ce sont des extensions de l'État central. Mais ici, vous aurez chaque État avec ses prérogatives propres, ses mécanismes de mobilisation des recettes propres, mais au sein d'une entité qui, lui, demeure la République démocratique du Congo, qui a la même armée, la même monnaie, mais une dynamique nouvelle qui empêchera que des conseillers à la présidence deviennent des superviseurs, des gouverneurs, qui eux deviennent des satrapes chargés de mobiliser des recettes pour des projets qui échappent à l'intérêt général.
Alors, maintenant, vous pouvez répondre au prof, s'il vous plaît, monsieur Diakhessé, rapidement, soyez vraiment concis, hein.
Cher professeur, parmi la différence au-delà de l'application des textes, parce que vous réduisez, à mon sens, cette question à une simple volonté d'appliquer la loi, il suffirait de l'appliquer et les choses iraient autrement. Justement, non, parce que la nature du système centralisateur auquel nous avons, auquel nous faisons face, permet que on puisse bloquer toutes ces initiatives en dépit du fait que la Constitution a reconnu aux provinces ses propres prérogatives. Et par ailleurs, vous avez aujourd'hui des éléments qui, dans l'unitarisme, facilitent la mauvaise gouvernance et facilitent même un régime totalitaire qui peut basculer. Vous avez un président qui peut décider de changer la Constitution tranquillement et de décider de nommer des gouverneurs. Ce qu'un État fédéral ne permettra jamais. Parce que dès le départ, ce sont des droits acquis. Vous aviez relevé quelque chose de très pertinent et je suis parfaitement d'accord avec vous en disant que l'esprit de l'article 220 introduit ce principe de l'esprit des cliquets. Aucune réforme ne peut être entreprise qui vise à réduire les prérogatives des entités territoriales décentralisées. Eh bien, c'est justement ça, c'est le cas d'espèce. Lorsque nous mettons le fédéralisme en place, nous accroissons davantage leurs prérogatives. Et donc, de ce fait, nous restons dans l'esprit du pacte républicain des Sun City, parce que nous n'apportons aucune modification sur les dispositions verrouillées de l'article 220. Nous respectons la forme républicaine, nous respectons la durée des mandats du chef de l'État, nous donnons juste aux provinces les prérogatives. Et d'ailleurs, vous avez dit, il n'y a vraiment plus aucune différence entre ce qui avait été prévu, à part maintenant mettre deux ou trois éléments en place. Eh bien, mettons ces éléments en place.
Merci.
Parce que cette constitution n'a juste pas été respectée à cause du fait qu'on n'est pas dans un fédéralisme.
Merci, Hervé Diaké. C'est un auditeur qui nous suit depuis la ville de Goma au Nord Kivu. Il pense que dans l'environnement actuel, toute idée d'instauration de la forme fédérale de la RDC n'est pas à soutenir. Cette forme ne devait pas être une réponse aux frustrations et à la colère contre Kinshasa. Le risque auquel nous aboutirons sera la balkanisation, appliquant d'abord la décentralisation dans tous ses détails, notamment l'arrêt à la source de 40%, la réduction du train de vie des animateurs des institutions et la méritocratie. Ainsi, toute la République va se développer. Nous allons conclure cette émission. Nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Alphonse Goïka Sangi, un mot en guise de conclusion.
Je le martèle encore. Appliquons d'abord les textes existants, c'est-à-dire rendre effective la décentralisation, les 40% de recettes, la retenir à source, et l'opérationnalisation de la Caisse nationale des péréquations. Donc, si cela est fait, je crois que l'objectif du développement à la base sera atteint. Par contre, si nous commençons à développer des thèses qui vont nous amener toujours au problème, au risque de balkaniser le pays, je crois que c'est une approche à ne pas soutenir.
Professeur Ngondankoy.
Je continue à dire que les propositions qui sont faites, si elles sont destinées à être inscrites dans la Constitution, ça n'ajoutera pas beaucoup à ce qui existe déjà, parce que la forme régionale...
Allô, professeur?
La forme unique. Et s'il faut ajouter les deux éléments règles,
votre ligne crache, on a du mal à vous suivre, professeur Ngondankoy. Hervé Diaké, c'est votre conclusion. Soyez concis, s'il vous plaît.
Paul II, n'ayez pas peur. Après plus de 60 ans dans ces déclinaisons de l'unitarisme, le moment est venu de passer à autre chose. de libérer les énergies de nos provinces, d'en faire des véritables états fédérés qui s'occupent des réalités quotidiennes, de l'exploitation des ressources au nom de l'intérêt général pour un pays qui a 2 345 409 km², avec plus de 60 millions de citoyens, c'est exactement la réponse aujourd'hui. Après 60 ans, il faut fermer la parenthèse de l'unitarisme. Le Congo ne sera jamais balkanisé. Ça, c'est juste
dialogue entre politiques qu'on a juste congolais. C'est fini pour ce soir. Bonne suite de programme sur Radio Capi.